Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de cette semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Joanne Sidaner, Grégory Sirgue et Sébastien Baldovini. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, une grosse page football avec la troisième journée de la Ligue 1 et le tirage au sort de la Ligue des Champions, de la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas. Et après une page de pub, nous parlerons du tennis avec les résultats de la première semaine de l'US Open et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Joanne Sidaner, on va commencer par vous avec le football, c'est la troisième journée de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée avec un PSG qui met 6 buts à Toulouse ?
Oui,
n'en déplaise à Grégory Sirgue.
C'est vrai, c'est le score fleuve du week-end avec vraiment un festival offensif et notamment le superbe triplé de João Neves.
Deux retournées acrobatiques en pleine surface. Un geste qu'il ne fait jamais à l'entraînement selon ses coéquipiers.
Non, mais c'est vrai que ça peut marquer, ça va marquer l'histoire du football et de la Ligue 1, parce que c'est vrai qu'on peut, c'est pas un joueur qui nous habituait à ce genre de gestes, mais on se rend compte qu'il sait tout faire et tout bien faire.
Donc le PSG s'est imposé à Toulouse 6-3 avec un relâchement en fin de match, mené 6-1 à quelques minutes de la fin.
Ben oui, ça paraît anecdotique, on va dire, mais de mettre 6 buts à l'extérieur.
Pour Luis Enrique, ça l'était pas, les deux buts en plus, là.
Oui, ben comme tout coach, et notamment ce genre de coach très, très exigeant. Maintenant, on sait aussi que parfois, il y a un peu de le côté un peu, on va dire, théâtral, et notamment faire un peu comprendre au groupe, aux joueurs, que ce genre de but et de relâchement ne passera pas en Ligue des Champions.
Voilà, donc il a fait tourner notamment en charnière, puisque c'était Beraldo et Zabarni, l'Ukrainien, qui était en charnière centrale en lieu et place de Marquinhos et Pacho. Donc c'était aussi probablement un test, mais aussi un moyen de faire souffler un peu de joueurs qui ont beaucoup joué l'année dernière.
Oui, il est obligé de gérer un peu son effectif, et notamment cette charnière centrale qui a été beaucoup titulaire et qui a beaucoup enchaîné, mais c'est surtout aussi peut-être les mettre devant leurs responsabilités.
Alors l'autre fait marquant de ce match, c'est les deux pénaltys arrêtés par Chevalier en 2 minutes.
Il y a eu beaucoup de choses. C'était une vraie bonne journée de Ligue 1. On ne s'est pas ennuyé, mais pour ce qui est de Chevalier, de ce remplacement qui était pour certains pas forcément une solution. Voilà, il apporte son lot de réponses.
Bon, vous parlez d'une journée importante, c'est 39 buts en tout, c'est la troisième journée la plus prolifique du 21e siècle, donc effectivement il y a eu des buts.
Non, fantastique, vraiment pour le lancement du championnat, c'est vraiment une bonne publicité. Comparativement avec les autres championnats, c'est vrai qu'il y a eu des chocs qui n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Vraiment, la Ligue 1 sur ce week-end-là était vraiment riche en spectacle.
Alors Lyon, justement, qui est le seul à pour l'instant suivre le rythme du PSG, s'est imposé à 11 contre 10 contre Marseille 1-0 ce matin.
Oui, 3 sur 3 pour eux, 3 matchs, 3 victoires. C'était un match qui était à domicile et en plus face à un OM non pas malade, ou qui n'était pas encore malade avant ce match, mais qui est préoccupant. Puis ils se sont retrouvés à 10 au bout de 30 minutes. Donc on va pas dire que la logique est respectée, mais en tout cas sur ce début de saison, Lyon fait une belle impression, alors que c'est vrai que l'intersaison ne laissait pas présager ce genre de scénario.
Ça a été assez agité en coulisses, et finalement, en tout cas sportivement, ils sont là.
Ils sont là, là, c'est peut-être aussi la qualité du staff, la qualité de l'entraîneur, même s'il est suspendu. J'aime bien le binôme qui forme avec son adjoint, qui paraît vraiment être concluant. Donc Lyon, malgré tous les soubresauts, montre vraiment une grande qualité de jeu.
Contrairement à l'OM qu'on présentait à l'intersaison comme le concurrent principal du PSG suite à leur recrutement, et qui arrive une fois de plus à tout seul se mettre dans la crise et à se compliquer la vie sur le terrain.
Alors, ils se mettent peut-être trop la pression aussi.
Ah bah, la pression, elle existe forcément autour du club quand on est à Marseille, mais elle fait partie intégrante des éléments à Marseille, je pense.
Oui, ils avaient fait soi-disant des bonnes recrues, mais y en a un qui est toujours blessé, là, leur attaquant. Peut-être que quand il va revenir, mais je pense qu'au milieu, ils ont quand même perdu pas mal.
Je suis d'accord, c'est terrible pour tous les amoureux de l'OM. Effectivement, il nous laissait présager autre chose, notamment l'arrivée de De Zerbi, sa deuxième année, on espérait autre chose. Mais de laisser partir peut-être des éléments comme Rongier, Merlin, Rabiot, pour prendre des joueurs que le grand public connaît peut-être un peu moins. C'était une prise de risque et qui n'est pas payante pour le moment.
Oui, alors on en est qu'à 3 journées, on va aussi...
Ouais, mais là, il n'y a plus de jeu quand même à Marseille. Hein. Je suis désolé, mais l'année dernière, ça c'était bien fluide. Il y avait envoyé la patte De Zerbi. Là, maintenant, c'est brouillon. Ils sont acculés au but. C'est pas terrible, terrible. Bon.
On va suivre ça dans les prochaines journées.
Surtout Lille, qu'il y a la Ligue des Champions.
Ouais, on en parlera tout à l'heure. Lille a étrié Lorient en une mi-temps. Ils étaient menés 1-0 et puis ils ont mis 7 buts en deuxième mi-temps. Fait rarissime.
Mais je crois que c'est la deuxième fois, j'ai cru voir dans l'histoire de la Ligue 1, la deuxième fois qu'une équipe marque 7 buts en une mi-temps. Ben, tout là aussi, on peut dire plein de choses sur Genesio ou sur l'étang. Mais on se rend compte que ça fonctionne quand même et que au-delà des résultats quand même qui sont très honorables, marquer 7 buts comme ça avec là aussi, hein, Giroud n'était pas là en plus, mais au-delà de Giroud, vraiment ils ont une animation, Zegrova étant sur le départ, ils ont une animation, une nouvelle offensive à trouver et on se rend compte que ils sont encore là.
C'est ça, c'est un club extrêmement structuré et qui avait fait une belle saison en Ligue des Champions aussi l'année dernière, donc qui avait un peu pêché sur la fin en Ligue 1. Mais qui est là tous les ans dans les maintenant 5 premiers de mais quoi qu'il ça. Arrive.
Et en vendant à prix d'or ses meilleurs éléments à chaque fois. On parlait de Chevalier tout à l'heure, mais vraiment c'est plutôt bien parti pour eux.
Alors si on regarde un peu plus loin dans le classement, on a Nantes qui a obtenu sa première victoire face à Auxerre 1-0. Vous, le supporter nantais, ça doit vous faire plaisir.
Ah oui, ça m'a fait plaisir, mais c'est bon là aussi c'est.
On va pas rappeler Antoine alors.
Pas tout de suite.
Même si non, c'est une victoire qui vaut 3 points, un tout petit but marqué en début de rencontre par Mohamed. Mais derrière, les Canaries ont pas mal souffert quand même. Une belle équipe auxerroise quand même.
Mais le principal, c'était de tenir le résultat pour marquer les premiers points. Il y avait eu 2 défaites sur les 2 premières journées, donc c'était quand même important de débloquer le compteur.
Exactement, surtout à domicile.
Voilà, il y a Monaco qui s'est rassuré aussi par rapport à sa défaite la semaine dernière et qui s'est imposé face à Strasbourg 3-2 à la 95e minute à l'arrache.
Ben oui, mais à l'arrache, mais tant que ça compte, on dit tant que c'est pas sifflé, ça joue. Et Strasbourg qui a fait un bon championnat l'an dernier, qui là aussi marque des buts, marque des points, et jamais facile à aborder, même quand on est Monaco, mais ça a de la valeur.
Et c'était un choc entre clubs européens en plus.
Exactement, puisque Strasbourg jouera la Conference League cette saison. Dans le match qui était déjà presque un match de la peur entre le PFC et Metz, PFC s'est imposé chez lui à Jean-Bouin 3-2.
Ben oui, là aussi c'était les matchs de promu, mais on se rend compte que le PFC, même s'il y a eu beaucoup de changements, et ils montrent par leur recrutement des ambitions, cette victoire forcément fait du bien contre une équipe de Metz qui est là aussi, qui est, même s'ils vont avoir du mal à marquer des points, ils sont déjà un peu dans la charrette, comme on dit. Mais j'aime bien ce que fait Stéphane Lemignan et je compte. Il faudra compter sur eux.
Voilà. Et donc il y a un dernier mot sur cette journée de Ligue 1 avec Nice qu'on croyait aller mieux la semaine dernière avec leur première victoire de la saison, qui ont rechuté au Havre 3-1.
Ben, quoi dire à propos de Nice Je me mets parfois, non pas à la place de Franck Hez, mais on sent qu'il y a un peu de désappointement. Il a du mal à mettre de la régularité dans cette équipe, dans ce club.
Dans l'effectif aussi. Hein,
dans cet effectif.
Il n'y a plus l'effectif. Hein.
Non, il y a eu beaucoup de départs, ouais. Mais ils ont aussi dépensé, ils ont recruté. Mais c'est vraiment un groupe, un club qui paraît quand même compliqué.
Alors, si on regarde le classement rapidement, on a Paris et Lyon avec 9 points, Lille à 7 points, et puis 4 clubs, Monaco, Lens, Strasbourg et Toulouse à 6 points. Et si on regarde en bas, ça va déjà mal pour Metz avec 0 points. Ça va pas beaucoup mieux pour Brest avec un seul point. Et puis après, il y a beaucoup de clubs entre la 10e place et la 16e place. Il y a 6 clubs à 3 points. Donc voilà, on n'est qu'à la 3e journée.
Oui, la hiérarchie se dessine déjà un peu. Mais la trêve internationale va permettre à quelques clubs qui ont beaucoup recruté sur les dernières semaines de, de peut-être
de travailler.
Voilà, de travailler, de réajuster. C'est souvent des moments propices et qui permettent, comme je vous dis, à des clubs comme Metz. Bien sûr que l'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est très importante, mais quelques très bons entraîneurs permettent d'ajuster rapidement le tir.
Encore faut-il disposer de son effectif pendant cette trêve internationale.
Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, mais encore une fois, je vous dis, des clubs comme Metz qui se préparent à lutter pour ce genre de championnat, il ne faut pas être si inquiet, contrairement à Brest peut-être.
Ok, donc prochaine journée le 14 septembre, vous l'avez dit, d'ici là il y a la trêve internationale avec deux matchs de l'équipe de France pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026, dont on aura l'occasion de reparler. On va ouvrir une page Ligue des Champions, avec beaucoup d'étonnement finalement quand on regarde le calendrier qui est sorti et le tirage au sort qui est sorti de ce ces fameuses boules chaudes et ces fameuses boules froides dont on parlait avec Grégory Sirgue juste avant. On va commencer par le PSG. On s'était dit le champion d'Europe va avoir être protégé, un tirage facile. Alors on sait que le système mis en place, on tire deux boules dans chacun des chapeaux. Paris a pris ce qu'il y avait quasiment de pire dans chacun de ses chapeaux. Avec l'Atalanta Bergame, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, le Bayern de Munich, Tottenham, l'Athletic Club de Bilbao, le Sporting de Lisbonne et Newcastle. Donc il y a quand même du très très lourd. Votre analyse et votre avis, Johan Sidaner?
Comme tout le monde, effectivement, on peut être un peu surpris, mais ces grands clubs et ces grands joueurs, on sait qu'ils sont stimulés par ce genre d'affiches. Et on peut commenter dans tous les sens. Hein. Effectivement, pour se qualifier, la tâche est compliquée. Mais je vois pas, même si l'année dernière c'est passé pas loin. Mais je les vois mal ne pas sortir de ce groupe. Et puis effectivement, comme je vous disais, ces grands clubs aiment jouer les grands matchs. Donc même si encore une fois ça s'annonce compliqué, mais ils ont forcément l'effectif et le et la dynamique de groupe pour sortir de ce groupe.
Alors si on regarde le calendrier de l'OM maintenant, il y a le Real Madrid, l'Ajax Amsterdam, le Sporting de Lisbonne, l'Atalanta Bergame, Newcastle, l'Union Saint-Gilloise, Liverpool et le club de Bruges. Ça paraît un tout petit peu plus simple que pour Paris, mais...
Il me semble qu'il commence à Newcastle.
Il commence à Madrid.
Ah, c'est Madrid.
Ouais, à Bernabeu.
D'accord. C'est magnifique. Hein. Là aussi, ces joueurs-là se dépouillent toute l'année pour se qualifier, pour jouer ces grands matchs. Ils le disent. Hein. Ils sont tous hyper excités d'aller jouer ces grands matchs dans les grands stades. Maintenant, le tirage au sort est compliqué, mais c'est la Ligue des Champions.
J'espère qu'ils ne vont pas faire comme une année où ils ont fait zéro victoire.
Il n'y avait que 4 matchs à l'époque, il y en a le double, donc ça leur laisse 2 fois plus de chance. Mais on va espérer pour l'indice UEFA que les clubs français se comportent bien et ramènent des points comme Brest l'a fait et Lille l'ont fait l'an dernier. On va s'intéresser à Monaco maintenant, qui lui donc a tiré le club de Bruges, Manchester City, Tottenham, Bodo Glimt, Fafos, qui est un club chypriote, le Galatasaray, le Real Madrid aussi et la Juventus de Turin.
Voilà, et on peut être un peu plus inquiet pour Monaco. Parce qu'effectivement, il y a quelques clubs qui sont pas faciles à négocier quand on parle de Galatasaray et puis des clubs qu'on connaît un peu moins, Bodo Glimt et Fafos.
Alors Fafos, ça paraît à peu près jouable, c'est à Chypre. Par contre, Bodo Glimt allait jouer en Norvège le 4 novembre, c'est jamais une sinécure.
Non, on sait. Et puis Monaco est forcément moins armé, donc Tottenham, tout ça c'est vraiment des équipes qui sont sur une bonne dynamique. On peut être forcément plus inquiet pour Monaco.
Malgré tout, ils ont gardé un effectif assez stable, alors qu'habituellement, ils ont quand même un turnover assez important à l'intersaison à chaque fois. Là, c'est plutôt de la stabilité. On voyait Akliouj partir, il est resté. On voyait Ben Seguir partir, il est resté.
Non, il est parti.
Il est parti,
ouais,
pardon.
Il vient de partir.
Il y a Pogba. Bon, il joue toujours pas, mais il est là.
Paul Pogba, qui est effectivement la recrue phare de... On parle de N'Golo Kanté, pourquoi pas pour reformer une charnière qu'on a connue en équipe de France.
Non, il y a encore pas mal de rumeurs, mais effectivement, la stabilité de Monaco effectivement, est un des points forts pour eux pour cette nouvelle phase de Ligue des Champions. Mais encore une fois, j'ai pas été forcément toujours... admiratif de ce qu'ils ont fait. Maintenant, effectivement, ils commencent par quel...
Monaco commence par un déplacement à Bruges. Club de Bruges.
Qui qui
c'est déjà mieux.
Avant de recevoir Manchester City et Tottenham sur les deuxième et troisième journées.
Voilà. Je crois que c'est Bruges qui a fait un gros début de campagne en allant éliminer le Celtic, il me semble. Donc non, c'est un calendrier qui est compliqué pour Monaco.
Si on regarde la première journée, donc pour les clubs français, on aura un PSG Atalanta-Bergame le 17 septembre, un Real Madrid-Marseille la veille le 16 septembre, et un club de Bruges-Monaco le 18 septembre. Voilà, donc étalé sur trois jours cette première journée.
On a hâte de voir tout ça déjà.
Voilà, ça va démarrer donc d'ici une quinzaine de jours, un petit peu plus, où on va entendre de nouveau la douce musique de la Ligue des Champions qu'on attend tous les ans. On va en terminer avec cette page football et on va passer avec vous, Grégory Sirgue, à la Formule 1. C'était ce week-end le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé pour la septième fois de la saison.
C'est ça, Oscar Piastri, qui fait un triplé en plus. Il fait la pole position, il gagne le Grand Prix et en plus, il fait le meilleur temps en course. Donc un week-end plein pour lui, contrairement à son coéquipier qui a fait le coup de la panne et à quelques tours de la fin, était deuxième. Il revenait en plus, on s'attendait à une belle bataille au final et d'un coup, on l'entend dire à sa radio qu'il trouve qu'il y a une drôle d'odeur
dans le baquet.
Au final, la voiture, fin du Grand Prix, là, qui a rendu l'âme sur le circuit, un endroit en plus qui était assez dangereux. Donc,
c'était bien pour nous, pour le français.
Alors, c'était bien pour Adjar, qui du coup, je pense qu'Olivier allait en parler, mais qui fait son premier podium. C'est le plus jeune français de l'histoire sur un podium et c'est le cinquième plus jeune pilote de l'histoire qui fait un podium de Formule 1, et il est plus précoce encore que Vettel, qui déjà à l'époque était vu comme très précoce dans ses performances.
C'est ça, si on regarde les quatre qui le précèdent dans les plus jeunes, il y a beaucoup de pilotes de cette année, il y a Colapinto dedans, il y a un certain nombre de pilotes qui sont là cette année. Donc effectivement, la bonne nouvelle pour nous français de ce Grand Prix, c'est la troisième place d'Isaac Hadjar. Est-ce que ça va pas un petit peu le propulser à l'insu de son plein gré, comme une expression bien connue, vers une écurie un peu plus huppée que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui?
Peut-être, c'est un peu le débat qu'on avait eu déjà la dernière fois, de se demander est-ce que ce serait une bonne opportunité pour lui d'aller chez Red Bull, quand on voit tous les pilotes qui sont passés par le deuxième baquet chez Red Bull, la suite qu'il y a eu. Je répète la même chose que la dernière fois, je lui souhaite pas pour l'instant. Vaut mieux qu'il fasse ses armes. Là, ce qui a prouvé, c'est pas entre guillemets la surperformance sur le Grand Prix, c'est vraiment la régularité et la fiabilité de la voiture qui a joué en fait. Parce que si Norris n'a pas la panne, Hadjar ne remonte pas sur le podium. Parce que même si à la fin il essayait de revenir chercher Verstappen, il l'aurait pas eu parce que Verstappen a doublé, c'est quasi impossible. Donc Et il y a eu aussi d'autres faits de course qui ont fait qu'il y a eu tout le temps des multiples relances. Et donc, c'est un ensemble de choses, mais ce qui a primé, c'est le sang-froid pour arriver à ce podium. Quoi.
Malgré tout, il n'a pas démérité loin de là, puisqu'il était quand même quatrième des qualifs.
Oui.
Donc, il avait plutôt, lui aussi, fait un beau week-end. Hein. Il a pas volé sa troisième place sur le podium, là, même s'il y a des faits de course.
Faut savoir être là, c'est comme tout à l'heure quand on parlait de foot. Des fois, il y a des passes qui sont hyper évidentes dans la surface, mais il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu pour la rattraper et mettre le but. Donc là, c'est pareil, il était au bon endroit, au bon moment à chaque fois.
Et il a résisté à un bon moment à la pression que lui mettait Leclerc.
Oui, parce que, tout à fait. Leclerc, avant que lui-même finisse au tapis avec Antonelli.
Un peu aidé par Antonelli. Hein.
Un peu aidé, oui. Disons qu'Antonelli a voulu passer à l'intérieur dans un virage où il est quasi impossible, vu que ça fait un relevé sur la route. Et du coup, avec la force centrifuge, il est porté sur l'extérieur et vient tamponner, vraiment auto-tamponneuse sur Leclerc. Et donc, ça fait une transition facile sur Ferrari, qui a quand même eu un sale week-end, puisque les deux voitures ont abandonné. Donc c'est quand même très, très compliqué, quoi. Et on a senti Hamilton, même s'il se rapprochait des performances de Leclerc, qui est vraiment complètement désabusé, quoi.
C'est ça. Pourtant, les propos qu'il tenait en début de week-end étaient plus rassurants que juste avant la trêve, où il avait l'air effectivement...
Il disait que mentalement, il était plus frais, que la pause lui avait fait beaucoup de bien. Et au final, on se rend compte que le mal est toujours là. Il y a un Grand Prix qui les attend la semaine prochaine avec énormément de pression, puisque c'est à la maison pour Ferrari. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a que le podium qui peut être visé pour se faire pardonner. Là.
Alors, c'est d'autant plus catastrophique ce week-end pour Ferrari, qui n'ont plus que 12 points d'avance sur Mercedes au classement des constructeurs.
Oui, oui, puisqu'il marque 0 points.
Il marque 0 points sur ce week-end.
Alors que Russell marque les points de la 4e place. Et on a Antonelli, s'il n'avait pas eu les pénalités, bon, certes méritées, hein, mais qui était dans les points aussi, donc l'écart se serait encore plus réduit.
On va revenir un petit peu sur l'effet de course dont vous avez parlé, qui ont permis aussi à Albon d'être 5e, à Bierman d'être 6e, et même Tsunoda, dont on dit pas souvent du bien dans cette émission, qui est 9e, qui est dans les points.
Et Ocon également.
Et Ocon 10e.
Donc il y a deux Français dans les points et il y a des pilotes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir qui l'ont été. Albon est quand même assez... toujours des bonnes performances quand même.
Sur la Williams.
Sur la Williams. Donc non, c'était plutôt un Grand Prix intéressant avec du suspense qu'on n'attendait pas forcément dû au fait de course.
Au fait de course, c'est ça. Si on regarde les écarts, ils sont assez inhabituels. On a l'impression presque de regarder de la MotoGP si on regarde les écarts. Parce que
ah oui, c'est très serré. Ouais.
On n'avait pas l'habitude ces derniers Grands Prix d'avoir des écarts aussi faibles. Verstappen est à 1,2 seconde de Piastri. Alors c'est aussi les faits de course qui font ça et les relances de course. Mais voilà, Hadjar finit à 3 secondes 2, Russell à 5 secondes 6. Donc on a 6 pilotes dans les à moins de 10 secondes. 7 pilotes dans les 10 secondes.
À noter que en plus bon du départ arrêté du départ du Grand Prix quoi, on a eu quand même 3 restarts dans le Grand Prix où tous les pilotes sont vraiment à la queue leu-leu et à 10 cm les uns des autres en repartant. Donc ça explique aussi
les faibles écarts de cette fin de Grand Prix. On a le vétéran Fernando Alonso dont on parle peu mais qui aussi quasiment toujours là, il avait un peu plus de mal sur les derniers Grands Prix avant la trêve, mais ça a l'air de repartir là, il est 8e dans ce Grand
Et
Prix.
Et surtout les points qui marquent lui sont directement pour lui, pas que pour le pilotage puisque il était quand même vraiment dans les derniers pendant une bonne partie du Grand Prix et il sentait qu'il était limité par sa voiture et il a demandé à son écurie de faire une stratégie d'undercut, c'est-à-dire rentrer avant d'autres pilotes qui vont rentrer ensuite. Et ça a payé puisqu'il est ressorti devant eux et après avec l'effet de course et
il a réussi à garder sa position.
C'est ça. Donc vraiment en fin stratège, c'est l'expérience tout simplement qui a apporté ça. Quoi.
Week-end encore difficile pour Alpine.
Week-end difficile pour Alpine. On attendait un peu plus de Gasly qui laissait présager de bonnes choses quand même parce qu'il avait la performance même si sa séance de qualif n'était pas top. Mais au final, pendant le Grand Prix, ça s'est complètement effondré quoi.
Il termine 17e, dernier roulant, on va dire. Les autres
c'est ça, puisque même Antonelli, avec des pénalités, finit devant lui. Quoi.
Voilà. Donc, et Colapinto, son coéquipier, fait 11e, ce qui est presque un de ses meilleurs résultats cette année. Mais malgré tout, Alpine est toujours bon dernier du classement constructeur avec 20 petits points.
C'est ça, c'est une saison qui va être longue. Il y a déjà eu la première partie de saison, mais la deuxième sera tout aussi longue, je pense. À mon avis, il faut qu'ils se concentrent sur le changement de réglementation l'année prochaine pour progresser. Quoi.
Ils ne peuvent que progresser, j'ai envie de dire, malheureusement pour eux.
Ah ben, on peut pas finir moins que dernier, donc forcément...
Alors, il y aura une écurie en plus l'année prochaine.
Il y aura Cadillac l'année prochaine qui arrive en Formule 1.
C'est l'annonce qui a été faite cette semaine.
Et avec un recrutement vraiment d'expérience, Valtteri Bottas plus Sergio Perez. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner.
Des pilotes expérimentés.
Des pilotes très expérimentés qui ont eu l'habitude en plus d'être les seconds couteaux dans leur écurie. Donc ça va être intéressant à suivre. Il y a des rumeurs comme quoi Christian Horner irait être le team manager. Donc ça, c'est un peu plus de la rumeur, mais affaire à suivre. Quoi.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Si on regarde le classement au championnat du monde des pilotes, donc Piastri a repris 34 points d'avance sur Lando Norris.
C'est ça, c'est la vraie mauvaise nouvelle pour Norris parce que chaque course, il arrivait à grappiller 1-2 points et il était revenu, je crois, à 8 points, sauf erreur de ma part. C'est et là, ça. Il en prend 25 d'un coup. Mmh. Ça va être compliqué pour jouer le titre, du coup.
On l'a dit tout à l'heure, on va le redire, au classement des constructeurs, donc on ne part pas de McLaren qui est seul en tête et seul au monde. Mais derrière, Ferrari n'a plus que 12 points d'avance sur les Mercedes. Et même Red Bull Racing, au gré des bonnes performances de Verstappen, pourrait presque se rapprocher tellement les voitures rouges ne marquent plus de points.
La bataille pour la deuxième place va être très très intéressante à suivre. La première, faudrait que je regarde d'ailleurs quand est-ce que McLaren peut être sacré champion, parce qu'ils ont une telle avance que ça sera largement avant la fin de la saison. Mais...
Ça devrait plus tarder d'ailleurs, parce qu'effectivement avec 300 points d'avance, ça devrait aller assez
les
vite.
Les jeux sont faits.
Prochain Grand Prix, vous l'avez dit, à Monza le week-end prochain, chez Ferrari. Résultat obligatoire pour
là,
les Ferrari.
Il n'y a pas le choix. Là. Parce que les tifosi ne leur pardonneront pas de pas gagner à domicile.
Quoi. Il faudra être bon tout le week-end des qualifs au Grand Prix.
C'est ça.
On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et nous, on se retrouve après une page de pub.
RRB, La pub.
Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien. Que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches, on est là, tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément.
RRB Recherche, un commercial performant. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc.
Chez Huggies, on pense qu'un bébé heureux, c'est un bébé au sec. Avec notre gamme Essentials, il est protégé jour et nuit. Nous offrons une protection fiable et une absorption complète. De quoi ravir les parents. Disponible en 6 tailles pour vous accompagner tout au long de sa croissance. Huggies Essentials, l'essentiel pour tous les bébés.
Vous avez des projets chocs plein la tête? Vous rêvez de changer de voiture, de partir en voyage fin loin ou de développer votre activité? Socalfi, c'est la solution de financement simple, rapide et flexible. Auto, moto, bateau, pro, conso, parce que chaque projet est important. Socalfi finance toutes vos envies. Contactez-nous au 448 448 ou sur notre site socalfi.com.
C'est ça qui est bon!
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La suite de votre semaine formidable avec Olivier Ledain.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et on se retrouve dans Sportmidable pour parler tennis désormais. Donc l'US Open bat son plein et c'est déjà quelques favoris. Ils sont passés à la trappe, Sébastien Malouini.
Ouais, dans le mien.
Dans celui que vous aviez annoncé la semaine dernière, effectivement.
Ouais, ouais. Mais il est sorti blessé, donc Shelton était blessé. Et il n'y a pas que lui, parce qu'il y a sur 2-3 jours, il y a eu 5-6 blessés, dont des pas des moindres. Et on s'aperçoit, alors après je ne sais pas si c'est les effluves du cannabis, parce que les joueurs se plaignent. Mais ou la chaleur ou l'enchaînement des matchs. Mais c'est très rare de voir autant de blessés sur un tournoi du Grand Chelem.
Alors effectivement, on va revenir sur Shelton qui a dû abandonner face à Adrian Manarino au début du cinquième set. En fait, il venait de concéder le quatrième set.
Ouais, l'épaule. Donc après, quoi qu'il arrive, il aurait pu rien faire. Et après, on a aussi l'Italien qui abandonne.
Coboli également.
Ouais, toujours pareil. Enfin,
sur blessure aussi.
Sur blessure. Il y a pas mal de blessures, donc après, la chaleur, les cours, l'intensité, je sais pas, mais c'est comme je disais, c'est très rare qu'en Grand Chelem, il y ait autant d'abandons, surtout à partir des 8e et du 3e tour. C'est souvent au premier tour, parce que bon, ils savent qu'ils sont déjà blessés et ils y vont un peu pour la prime, mais là, c'est très rare quand même.
Alors au-delà des blessures, on a quand même des joueurs qu'on attendait comme être la relève du fameux Big Three qui était Federer, Nadal et Djoko. Donc, je parle de Zverev, je parle de Tsitsipas et Medvedev. Ça y est, les trois sont déjà sortis.
Ouais.
Pour Medvedev, ça a été très vite, premier tour sur Benjamin Bonzi.
Ouais, on l'avait dit, hein, c'était Bonzi l'avait déjà battu à Wimbledon, donc il a de fortes chances de le battre. En ce moment, il fait rien et du coup, il a changé d'entraîneur.
Voilà, il vient de quitter Gilles Servara, ouais. Son entraîneur depuis 8 ans.
Il essaye, c'est normal, il essaye un peu de se remettre dedans, mais je pense que ça va être compliqué. S'énerve vite.
Il est très nerveux, mais bon, oui. C'est aussi lié au résultat probablement.
Après, on a vu l'expérience contre Bonzi parce que tout de suite, il s'est bien saisi du problème du photographe pour rentrer dans la tête de Bonzi qui a mis quand même 2-7 à s'en remettre. Et heureusement, derrière, il arrache le match, mais s'il avait perdu ce match-là, ça aurait fait très très mal.
Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'incident dont vous venez de parler, balle de match Benjamin Bonzi dans le quatrième set. Oui. Fin du quatrième set, 2-7-1 pour Bonzi.
Troisième set.
Non, quatrième set, il sert.
Il prend 6-0 au quatrième. Troisième set, il sert.
Il rate sa première balle et un photographe sort pour prendre une photo tout de suite, croyant que le match est terminé. Et du coup, l'arbitre de chaise lui dit « Non, monsieur le photographe, vous retournez à votre place, s'il vous plaît. » Et il redonne une première balle à Bonzi. Et là, Medvedev devient fou en disant « Mais comment ça, la première balle ?» Alors, ce qui est normal, il y a ce qu'on appelle la continuité de jeu. Il doit y avoir une continuité de jeu entre la première
et la deuxième balle. Il a bien saisi son chose.
Et donc, Medvedev s'en est servi pour se mettre le public avec lui et faire monter la sauce dans le public. Et il a complètement fait vriller Bonzi, qui perd le set juste derrière au tie-break, qui arrive jusqu'au tie-break, qui perd le quatrième set 6-0, qui arrive à se remobiliser au cinquième set pour finir par l'emporter. Mais voilà.
Il se fait même breaker au cinquième set. Et puis d'un coup, il se remet dedans. Il arrive à débreaker, à repasser devant.
Et il s'en
heureusement
sort.
Parce que c'est la saison était finie pour lui.
Et Medvedev a pris une petite amende de 42 000 $ comportement anti-sportif.
Oui, pas pour avoir rose péteux, mais
il a un peu dit à l'arbitre ce qu'il pensait de lui aussi.
Oui, et puis sa raquette, il l'a cassé.
On va revenir donc sur Zverev qui s'est fait sortir hier au troisième tour par Ogé Aliassime, un peu la surprise, le Canadien.
Oui, puis il a... Zverev gagne le premier, on pensait qu'il allait dérouler, et puis à un moment, comme dans tout le sport, hein, l'autre, tout est rentré, et il a fait un bon match, parce qu'on ne peut pas dire que Zverev a fait un mauvais match, mais on sait très bien que le Canadien, il est capable, sur un match, de battre tout le monde. Bon, après, est-ce qu'il va tenir derrière, je ne suis pas sûr.
On a presque déjà la réponse, le connaissant, hein. On sait que ça ne va pas aller forcément beaucoup plus loin. On a perdu Casper Ruud aussi, très vite, deuxième tour, c'est pareil, ça devient compliqué pour le Norvégien.
Ouais, mais depuis, il nous a un peu habitués ces derniers temps à, voilà, je pense que peut-être l'enchaînement des matchs, c'est un peu comme dans le football, il faudrait qu'ils se posent la question, parce que là, ils les font trop enchaîner. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait une grosse coupure avant, que maintenant, il n'y a plus.
Entre Wimbledon et la tournée américaine, il y avait une coupure plus importante qui n'existe plus, qui est réduite.
Après, je comprends que, que tout le monde veut jouer par rapport à l'argent, mais bon, après, il faut quand même se préserver parce que les blessures vont vite. Et
on a perdu aussi Runo et Tsitsipas.
Ouais, ça, c'était du...
Presque sans surprise.
Ouais, sans surprise.
Plus pour ce qui est de Tsitsipas que ce qui est de Runo. Runo était quand même dans une phase un peu mieux.
Il avait fait pas mal un peu mieux au Master 1000 avant. Mais Tsitsipas, depuis le début de l'année, il est dans l'eau... Et bon, on sait que c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine, ça ira mieux. Mais par contre, on a toujours les deux meilleurs qui déroulent.
C'est ça. Pour eux, tout va bien. Ils tracent leur route sans encombre.
Ouais, le match Alcaraz contre le français Rinderberg.
Rinderknecht,
s'est même permis de faire une volée derrière le dos. C'est impressionnant quand même. Ils sont vraiment loin devant.
C'est la première fois qu'Alcaraz arrive en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem sans perdre un set.
Ouais.
Il est très très
mais
en
il
forme.
Est très très bien physiquement par contre hein. Et Sinner qui était malade il y a une semaine enfin il y a deux
à
semaines
Cincinnati, ouais.
J'ai l'impression qu'il a perdu un set aussi mais
il lâche un set sur Chapovalov. Ouais, Chapovalov il a pas un tableau facile Sinner jusqu'au
non.
bout il va jouer Bublik là
et je sais pas qui c'est qui joue Fritz, je crois que c'est Alcaraz qui joue Fritz
potentiellement en demi, oui.
En demi parce que Fritz il est chaud hein.
Fritz a gagné tout à l'heure aussi
et c'est un américain
très
hein.
très facilement
ouais.
Il s'est imposé en 3-7 sur Thomas Marac, le Tchèque.
Je trouve très, qu'il très est, facilement. Il est bien. Après, on sait qu'il est un petit peu mentalement, il peut lâcher un peu dans les grandes rencontres, mais
on rappelle qu'il est finaliste de la dernière édition. Hein. C'est lui qui a perdu contre Sinner, donc il a aussi des points à défendre.
Il a des points. Et puis bon, après, voilà, c'est un Américain. Il joue fort. Il sert bien.
Ce sera le dernier Américain pour le coup, donc forcément être soutenu par le public.
Oui, parce qu'on sait que là-bas, voilà. Après, comme on en disait la semaine dernière, le gros problème de l'US Open, c'est que le public n'est pas obligé de s'arrêter de parler pendant les échanges. Comme on disait, il y a une rumeur d'odeur de cannabis et on sait qu'il y a des restaurants en haut, donc c'est vraiment un brouhaha
permanent. Il y en a un qui est toujours là, dont on ne parle pas beaucoup, on parle beaucoup moins, mais c'est Djokovic qui est là.
Le vieux, comme on dit. Le vieux, il vient de se qualifier en 3-7 en plus.
Facilement, tout à l'heure,
facilement,
effectivement.
Donc il arrive en quart, on ne va pas dire en roulade arrière, mais pas loin. Donc il est là. Et pourtant, au premier tour, on l'avait pensé un peu faible, parce qu'il avait du mal, il montrait qu'il avait du mal dans l'échange, et puis là, il est là.
Il me semble qu'il prend potentiellement Fritz en quart, justement.
Oui.
Donc ça sera un match intéressant.
Oui, un tapeur contre un relanceur. Si le tapeur n'est pas bien, le relanceur peut passer. Hein.
Alors comme d'accoutumé, j'ai envie de dire, et malheureusement, on peut presque déjà faire un bilan du côté français, puisque la première semaine est terminée.
Alors il est un peu plus positif qu'on avait dit la semaine dernière, parce qu'ils avaient tous des têtes de série, ils avaient tous des matchs assez durs. On pensait qu'ils n'allaient plus avoir de français au deuxième tour. Et on a Manarino qui nous fait un super tournoi, alors que... Ça fait quelques mois qu'il se bagarre dans les qualifs. Et puis Rinderberg, qui depuis qu'il s'est marié, il a fait un second souffle, il n'arrête pas d'enchaîner des bons matchs.
Et il y a Bonzi, donc qui a aussi, voilà, qui a été un bon.
Après, on a toujours déçu par Mpieti.
Mpieti Perica.
J'ai toujours mal avec ça.
C'est votre préféré, celui-là.
Ouais, celui-là, c'est mon préféré à dire. mais c'est vrai que voilà. Après, bon, Gaël, il était un peu fatigué. Il a fait un super début de saison. Là, ça s'enchaîne. Ça commence à être un peu compliqué pour lui.
C'est ça. Humbert, Moutet, Monfils, Mpieti Perica, Alice, Muller et Gaston ont perdu au premier tour.
Oui. Bon, il y en a qui étaient contre des bonnes têtes de série, donc. On va dire que c'était... Mais Humbert...
Humbert, ça reste la déception de cette année. Hein, vraiment une sortie en grand chelem de plus ratée pour cette année. C'est vraiment une année à oublier pour Humbert. Parce qu'il est tête de série.
Hein. Donc il est protégé. Et bon, après, depuis qu'il a eu... Il s'est fait mal au bras.
Depuis l'opération, il a du mal à revenir.
Pourtant, ce n'est pas son bras où il joue, qui tient la raquette. Donc, ça
donc on l'a dit, Bonzi avait battu Medvedev et Giron au deuxième tour. Il a perdu sur Rinderknecht, ce qui assurait d'avoir un Français en quatrième tour. Rinderknecht, donc, qui a battu Karbales, Baena, Davidovic, Fokina, qui était l'homme en forme, et Bonzi avant de s'incliner cette nuit donc, sur Alcaraz. Et puis Manarino, qui avait battu Grigsport, Thompson. Grigsport était tête de série 29, oui. Grigsport 58e, il bat Shelton, tête de série 5, 5e mondial, et il s'incline donc face à l'EHK cette nuit aussi, 20e mondial. Donc,
en 4-7.
En 4-7, belle perf quand même pour Manarino. Ah, ça va lui permettre de remonter au classement et de réintégrer le top 80 qui devrait lui permettre de jouer les grands chelems systématiquement sans passer par les qualifs.
Par les qualifs, oui.
On va rapidement passer au tableau féminin, un petit peu moins de surprises.
Oui, moins de surprises. On a quand même Sabalenka qui, pour l'instant, ça va. Là, on va avoir ce soir, il y a une belle confrontation entre Coco Gauff et Osaka.
Oui.
Donc ça sera à voir parce que Osaka elle a l'air de bien revenir.
Qui n'est pas un match en night session pour le coup. Ils ont mis un match en journée.
Oui. Donc après on a comment elle s'appelle, Świątek. Qui se défend pas mal. Elle était menée hier 5-1. Elle arrive à
remporter le 7-7-6.
Donc ça démontre qu'elle est là. Donc elle l'a déjà gagné. Donc
on avait dit qu'il y avait trois favorites la semaine dernière. Sabalenka, Świątek et Gauff.
Elles sont toujours là.
Elles sont là toutes les trois. Ouais. Même si Gauff aussi a eu des frayeurs au premier tour.
Ouais, c'est pour ça que contre Osaka,
sur Tomljanovic, elle a failli passer à la trappe elle aussi.
Après, les premiers tours, suivant le tirage, c'est souvent ça. Hein. Après, celles qui les jouent leur vie. Donc, ça peut être dangereux.
Rybakina a perdu tout à l'heure, qui était la quatrième mondiale tête de série numéro 4, contre Vondrousova.
Mais elle, après, c'était pas, pour moi, ce n'était pas trop une favori.
On l'avait mise dans la liste des outsiders la semaine dernière.
Pas trop sa surface, après.
Quelques surprises malgré tout. Elina Svitolina qui a perdu au premier tour, tête de série 12, c'est surprenant. Jasmine Paolini, troisième, qui perd sur Vondrousova aussi au troisième tour. Madison Keys qui a perdu au premier tour sur la Mexicaine Zarazua, ça c'est surprenant.
Ouais, ça c'est surprenant. Alors est-ce qu'il y a trop de pression? Je sais pas. C'est
Madison Keys qui avait gagné l'Open d'Australie cette année en janvier, donc assez surprenant ce résultat. Et puis Navarro, l'autre américaine, qui a perdu sur Krejcikova au troisième tour.
Ouais. Après, côté français, c'est pas mal. On a eu les adieux de Caroline Garcia.
Voilà, battue au premier tour par Rakimova.
Ouais, ça, on sait qu'elle avait un petit peu le ras-le-bol du circuit. Donc, c'est bien pour elle. Et après, on peut pas dire que la relève est là, par contre.
Alors, on a quand même une petite éclaircie là aussi. Elsa Jacquemot qui passe un tour et qui perd sur Laila Fernandez au deuxième tour. Plutôt logique dans la démarche. Et Diane Paris qui a passé deux tours en battant Kvitova, qui elle aussi terminait sa carrière sèchement, 1-0. Et puis Zarazua au deuxième tour avant de s'incliner sur Kostiuk, qui est la tête de série 27 au troisième tour.
Ouais, mais ça reste encore un peu léger. Et puis on a un Buisson qui. Buisson, Buisson. Bon, elle, je pense qu'elle attendra. Elle va attendre la saison de terre.
Voilà, elle a perdu sur Golubic, elle a besoin d'apprendre encore, elle l'a dit elle-même. Première US Open.
Elle change d'entraîneur en plus, c'est jamais très bien. Quoi.
Eh bien, on va continuer à suivre cette US Open et voir si la semaine prochaine vos pronostics sont bons sur le côté féminin, puisque le côté masculin, vous avez déjà perdu.
Oui.
Mais si on va passer à vos coups de cœur de cette semaine, Joanne Sidaner, on va commencer par vous, votre coup de cœur de la semaine.
Si on peut parler de coup de cœur, c'est un gros coup de cœur pour sur la scène internationale, mais pour nos petits cagous, la sélection U16 qui est vice-championne du Pacifique, d'Océanie, et on s'est incliné 2-0, mais avec tous les honneurs contre la Nouvelle-Zélande. Là. Mais ils se sont fièrement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde en 2026.
Félicitations à eux. On Merci. En avait déjà parlé la semaine dernière sur le match nul 0-0 au match aller. Grégory Sirk, votre coup de cœur de cette semaine ?
Un coup de cœur assez facile à deviner pour Isaac Hadjar, qui avait commencé la saison en abandonnant dans le tour de chauffe au Grand Prix de Melbourne et qui là fait son premier podium. Donc coup de cœur pour lui.
Tout ça à peine 21 ans.
Pas 21 ans.
C'est ça, à peine. Sébastien Valdovini, votre coup de cœur de cette semaine ?
Alors moi, ça va être un coup de cœur pour un événement. Il y a eu, donc c'était, ça faisait longtemps, il y a eu donc un club, deux clubs qui, le Païta et le tennis club de Païta et le tennis club d'Auteuil qui ont organisé un tournoi international. Et il y avait des étrangers
de tennis, du coup.
Oui. Et je trouve que c'est très bien. Et qu'il faut que ça continue dans tous les clubs parce que, vu le niveau qu'on a en ce moment, ça ne peut que être positif.
Donc on encourage tous les clubs à essayer d'organiser à leur tour un tournoi de cet acabit. Eh bien, merci pour vos coups de cœur, messieurs. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Et on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine formidable.